À 19h sur Présence, le mercredi, c'est cinéma avec N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie et Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous.
Comment allez-vous Laurent ?
Ça va très bien.
Vous avez l'air en forme.
Oui, on sort du cinéma, on est en forme. Une belle émission.
Oui, beaucoup plus que notre ami Guillaume Sidom qui a envoyé un mot d'excuse. Il est malade.
On le salue, on lui souhaite un bon rétablissement.
Évidemment, on souhaite qu'il soit de... En bonne santé, mercredi prochain pour un bon nouveau numéro de N'oubliez pas l'ouvreuse. Je vais pas y arriver, hein, je me prends les pieds dans le tapis. Ça doit être son absence qui fait ça. Oui, Guillaume Sidom n'est pas là et on lui souhaite donc un prompt rétablissement. Ça y est, c'est dit. Et revenons à nos moutons chers. Laurent Martin, qu'allez-vous nous conseiller ce soir ? En tout cas, combien de films ?
Alors j'ai sélectionné 5 films pour le cinéma, la télévision cette semaine et puis il y aura un petit conseil Blu-ray, DVD.
Avec nous également, il a laissé son réquisitoire cette fois-ci, notre ami Grégory Combe et son tribunal des séries. Ce soir, il sera dans l'habit du procureur, cette belle robe. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il va nous expliquer pourquoi il a détesté Bref 2. Vous savez, la suite de Bref qui était imaginée il y a un moment de ça par Kian Kojandi. Et le revoilà donc 10 ans plus tard, puisque dans les premières aventures de son personnage, de ce qu'il était, il avait 30 ans, maintenant il en a 40. Et dans Bref 2, ben, il a 40. C'est cette nouvelle série qu'on peut voir sur Disney+. Et Grégory Combe va la passer au crible. Qu'y a-t-il d'autre dans le panier de l'ouvreuse de ce soir ? Eh bien, elle va scruter l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin, et nous saurons quels sont les films qui sont à l'affiche et qu'il ne faut pas rater cette semaine. Nous irons du côté des reprises pour voir ce que le grand écran nous réserve. Le petit, on le sait. On attend vos conseils, Laurent Martin. Et puis, il y aura évidemment des potins. Quelques infos à vous donner. Vous allez voir, il y en a une qui est particulièrement intéressante. Et puis, des coups de cœur, parce qu'on a toujours des films, des manifestations, des festivals qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Et justement, à propos de festivals, ce soir, nous avons un invité, Samir Arabi, responsable du comité de sélection de Ciné Palestine, le festival qui a lieu du lundi 3 mars au mardi 11 mars. Bonsoir, Samir Arabi.
Bonsoir.
Rapprochez-vous du micro, cher Samir.
Okay.
Nous vous entendrons mieux.
Voilà. Okay.
Voilà. Comment allez-vous, Samir ?
Ça va très bien, merci.
Pas trop sur des charbons ardents, c'est la question traditionnelle qu'on pose à ce moment-là quand on organise un festival et qu'on est à quelques jours de l'ouverture.
Si.
Voilà.
Il y a beaucoup de choses encore à régler. Il y a aussi l'attente de l'arrivée des invités. Certains viennent de loin, donc on craint parfois les mauvaises surprises, mais on est prêt.
Oui. Les transports, de temps en temps.
Les visas de transport, les grèves.
Les grèves. Ah oui, les visas, oui, ça doit être compliqué, hein, les passeports.
Bien compliqué.
Ah oula. Alors, on en est à combien d'éditions maintenant de Ciné Palestine ?
C'est la 11e.
Hein, c'est ça,
c'est 11e, la 11e, oui. L'an dernier, on a fêté 10 ans
voilà.
De Ciné Palestine, et là, c'est la 11e édition.
Quand on passe 10 ans, c'est qu'on est installé, non ?
Tout à fait.
Oui, vous êtes attendu.
Pardon ?
Vous êtes attendu.
Oui.
Et comment arrivez-vous à sélectionner et à choisir les films que vous nous proposez pendant cette petite quinzaine ?
Alors, bon, au bout de 10 ans, on a développé un réseau avec nos amis cinéastes palestiniens. Donc, on sait qu'ils préparent un film et on guette la sortie du film. Mais sinon, on voyage virtuellement sur la planète pour chercher les films là où ils se trouvent. Parce que, comme vous le savez, la Palestine était sous mandat britannique entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce qui fait que beaucoup de films sortent en Angleterre ou aux États-Unis. Ils sont sous-titrés parfois en anglais. Donc, on cherche vraiment partout. On est très curieux. Et puis, on regarde ce qui se fait dans les autres festivals. On finit par avoir notre sélection. Mais ce n'est pas facile.
C'est souvent pour ça, peut-être aussi pour le fait que les films veulent être et sont distribués au niveau international, mais que beaucoup de titres sont en anglais.
Oui, malheureusement. Malheureusement, toutefois, on a appris à sous-titrer en français. Ça a été pas facile. C'est toujours pas facile, mais on l'a fait et on le fait. Lorsqu'on aime un film, c'est le cas, par exemple, dans le programme, on a repris un film qu'on a bien apprécié l'an dernier, qui va passer pas mal en région et à José Cabanis à la médiathèque et House in Jerusalem.
Oui.
Mais ce film n'était pas sous-titré en français. Il y a un an, on a fait le sous-titrage.
Ça demande beaucoup de travail, non ?
Énormément.
Parce que quand vous faites les sous-titres, comme celui qu'on va découvrir pour le film dont vous venez de nous parler, vous ne vous contentez pas de traduire ce qui est mis en anglais.
Ah non. Très souvent, je demande la version française et la version arabe. Donc j'ai les deux listes de dialogue. Et je préfère très souvent regarder la liste de dialogues en arabe parce que déjà il y a une première traduction et une première déformation.
Oui, forcément.
Voilà, donc on essaye de se libérer de la version anglaise et de faire une traduction et adaptation en français, voilà.
Alors vous savez que dans cette émission, on a coutume de regarder un film pour commencer, mais cette fois-ci, on va écouter une productrice. Et c'est une productrice que vous connaissez, Samir.
Le cinéma, pour faire du cinéma, il faut avoir de la liberté.
Palestine,
il n'y a pas cette liberté de pouvoir se déplacer ni d'exprimer ses opinions. Parce que nous sommes sous occupation israélienne. Ce film, on est obligé de se dans ce film, on est obligé de se déplacer.
فلازم زي ما انتوا شفتوا بالفيلم لازم نتخطى اكثر من حاجز اسرائيلي واكثر من منطقه عسكريه.
Donc lorsqu'on a fait le film, on était obligé de passer des checkpoints et des zones militaires.
فعشان هيك احنا كنا عاملين زي دراسه ايش هي المناطق الاقل خطرا ايش هي الشوارع اللي اقل تواجد فيها جيش اسرائيلي حتى نحمي الطاقم والممثلين.
Ils ont bien regardé, ils ont cherché à éviter les checkpoints et les hommes militaires afin de protéger l'équipe de tournage et de ne pas exposer l'équipe au danger, à un danger éventuel.
Il y a une des deux voix que vous reconnaissez quand même, Samir Arabi, c'est la vôtre.
Oui, c'est la mienne.
Et vous êtes remarquable dans la traduction simultanée. Et la jeune femme qu'on écoutait, c'est Méodé.
Oui, on s'est vu à l'époque avec elle.
Pour 200 mètres.
Pour 200 mètres, le remarquable film 200 mètres. Qu'on va reprendre aussi.
Et c'est pour cette raison que j'ai sauté sur l'occasion de la réécouter, puisque vous proposez à nouveau ce film remarquable, l'histoire d'un couple, d'une famille, en fait, qui vivent dans deux lieux différents, séparés par ce fameux mur.
À 200 mètres.
À 200 mètres.
Vraiment comme le titre. Et le film est d'une grande poésie, vraiment bouleversante. Et à l'époque aussi, on a apprécié la bande musicale.
Oui.
C'est un grand musicien palestinien.
Oui, qui s'appelle Farai Suleiman.
Tout à fait.
Très, 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 très beau et très, très grand musicien. Donc, 200 mètres que vous proposez lundi 10 mars au théâtre du Fil à Plomb. Ce sera à 19h30. Notez que dans votre festival, beaucoup de séances sont en entrée libre.
Presque la moitié. C'est un choix pour nous que le côté financier ne soit pas un obstacle en disant. J'ai envie de découvrir le cinéma palestinien, mais mon budget est bien maigre. Donc la moitié pratiquement, c'est à l'entrée libre. Alain Sav, José Cabanis, au théâtre Le Fil à Plomb.
À la CAFPO
Non,
à la CAFPO. Non, la CAFPO, c'est payant.
La CAFPO, c'est payant.
Ça a l'air d'être aussi.
des lieux municipaux pour certains, et la plupart d'entre eux. Pas le théâtre du fil à plomb, bien sûr. Mais pour revenir à la programmation et aux films que vous proposez, bien sûr, dans votre programmation, il y a quelque chose qu'on doit sentir par rapport à l'actualité de la Palestine à l'heure actuelle. Forcément.
Bien sûr. Ben, c'est pour cela, pour cette édition, on a vu la situation tragique, notamment à Gaza. Il était important pour nous de faire un focus cinématographique sur Gaza et d'avoir un ensemble de films. Nous, donc, on commence par Voyage à Gaza, le remarquable film de Piero Usberti.
Oui.
Qui a été fait en 2018. C'était une manière de voir Gaza avant. Et c'est une manière aussi de voir, de mesurer le désespoir de la jeunesse gazaoui. On est très bouleversé par la situation des enfants à Gaza et en Cisjordanie actuellement. C'est pour cela que la programmation propose Vibration de Gaza. C'est voir comment les enfants sourds et muets souffrent. Double souffrance, il y a double souffrance. Ils sont... ce bruit constant de l'aviation les perturbe énormément. Donc, c'est un court métrage sur les enfants à Gaza, les enfants sourds-muets. Et puis il y a un film qui nous a bouleversés, qui est en train d'avoir beaucoup de succès dans les festivals, mais en dehors du succès, la qualité artistique du film, la délicatesse du film, c'est un film de Mahaj qui s'appelle Upshot, ce qui signifie en français « bien plus tard ». Ce film traite une situation qui a une dimension universelle, les traumatismes en temps de guerre. Mais je pense Mahaj, qui est une grande cinéaste, qui sera avec nous le vendredi, donc 6 mars, elle sera avec nous à
7 mars.
Utopia.
7 mars à l'Utopia, Bordeaux-Rouge. Vous avez dit 6 mars.
J'ai dit le vendredi.
Vous avez dit vendredi 6 mars. Le vendredi, ce sera le 7 mars.
Ah oui, merci.
À Utopia Bordeaux, j'en ai fait.
Merci. Donc, elle sera avec nous à Utopia Bordeaux-Rouge pour accompagner son film. Mahaj est connu pour ses longs métrages, La fièvre méditerranéenne.
Et celui-ci est un court. Hein.
Celui-ci est un moyen.
34 minutes.
Et un court. 34 minutes, oui.
30 minutes. On a vraiment. Ce film est fascinant. Il y a une critique de cinéma tunisienne qui a écrit: on ne sort pas de ce film indemne.
Ah.
Voilà. Et puis, on est vraiment ravis d'accueillir le film de. Le documentaire qui a été piloté par Rachid Mashraoui. Tout à l'heure, j'étais avec la productrice. Qui donc a sollicité, a demandé aux jeunes Gazaouis de raconter leur quotidien. Et donc, il y a 22 courts-métrages, et lui, il a articulé tous ces films ensemble, et ça s'appelle From Ground Zero, qui est d'ailleurs en avant-première ce soir, à Utopia Bordeaux Rouge. Nous, on va le reprendre le samedi 8 mars. En présence de Rachid Mashraoui, ce sera l'entrée libre à l'INSAV. Et si vous n'êtes pas libre le samedi, vous pouvez aller le dimanche à Utopia Tournefeuille. Rachid sera avec nous. Et c'est un grand documentaire.
Et oui, parce que ce film est samedi, c'est à 15h15. Et après, c'est à...
Le dimanche, c'est à
11h. 11h, voilà.
Oui, parce que le Ciné Palestine, c'est à Toulouse, bien sûr, mais aussi en région, puisque on peut aller voir les films que vous proposez, notamment From Ground Zero à Tournefeuille.
Il sera à Auch.
Mais il sera aussi à Auch, il y a Albi. Alors, Albi, c'est Voyage à Gaza. Mais il y a une programmation proposée à Albi, je le disais, au Camville, à Auziel, à Bressol, on va jusqu'à Narbonne, jusqu'à Figeac aussi. Donc, on a l'occasion de voir ces films partout dans la région. Et dans cette région que Radio Présence accompagne, hein, à l'exception de l'Aude, hein, Narbonne,
oui, pas Narbonne, oui.
Pas Narbonne, mais pour le reste, oui. Figeac, Auch, Radio Présence est là. Avant de continuer notre conversation sur Ciné Palestine, je vous propose de retrouver l'actualité de la semaine avec l'ouvreuse et Laurent Martin. Alors Laurent, qu'est-ce que vous avez retenu pour nous?
À l'affiche de cette semaine, nous partons à bicyclette, puisque c'est le titre du film « À bicyclette », le nouveau film de Mathias Meklouz, avec Mathias Meklouz et Philippe Rebaud. Alors de l'Atlantique à la mer Noire, Mathias embarque son meilleur ami Philippe dans un road trip à bicyclette. Et ensemble, ils vont refaire le voyage que Yuri, son fils, avait entrepris avant de disparaître tragiquement. Une épopée qu'ils traverseront avec tendresse, humour et surtout émotion. Alors c'est un film qui n'aurait jamais dû exister. La bicyclette naît en effet d'une tragédie intime, de la plus insoutenable de toutes, le suicide de son enfant. Un drame vécu par Mathias Lécuze, qui décide alors d'entreprendre le même voyage à vélo de La Rochelle à Istanbul, hein, ça fait quand même quelques kilomètres, qu'avait entrepris donc son fils Yuri 4 ans plus tôt, et d'embarquer avec lui son ami Philippe Rebaud, qui lui glisse d'ailleurs l'idée tout simplement d'en faire un film qui va se construire au fil du trajet, sans scénario préécrit. Alors comment faire de ce deuil intime une œuvre universelle, et comment ne pas basculer dans le mélo lacrymal, hein, quand chaque kilomètre de ce voyage donne aux deux hommes l'envie de pleurer toutes les larmes de leur corps. Alors c'est ce double prodige, entre guillemets, que réussit ici Lécuze, hein, pour son deuxième long comme réalisateur, après Mine de rien, hein, en 2020. Il y a tout à la fois donc de la dignité, du burlesque, et puis aussi de la profondeur dans À bicyclette, une sensibilité qui ne verse jamais dans la sensiblerie, en se maintenant toujours sur ce fil ténu entre le documentaire et la fiction. Une capacité à rendre les personnages attachants, hein, sans en faire des anges non plus. Alors tout n'est pas parfait, hein, pour ces rois de la pédale. Il y a quelques ventres mous, quelques coups de frein, une réalisation qui souffre parfois d'un parti pris d'improvisation. Ben, sauf que ces imperfections, finalement, ben, nourrissent le film, hein, et le rendent encore plus attachant. Jamais on s'y sent de trop ou voyeur. On est toujours à bonne distance, en fait. Celle qu'a su créer donc Mathias Lécuze à chaque étape, hein, de ce voyage, vraiment pas comme les autres, qui vous laisse les yeux embués de larmes et un sourire aux lèvres. Louis-Marie, vous avez rencontré Philippe Rebaud, Mathias Lécuze, et il y avait même le chien du film.
Oui, il y a le chien du film avec eux.
Vous l'avez interrogé?
Il ne dit pas grand-chose. Il est très discret.
Il ne vous parle pas le chien non plus.
Non plus. Donc c'est compliqué de dialoguer avec lui. Mais ça l'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus facile, pardon, avec Philippe Rebaud et Mathias Lécuze, qui parlent très volontiers de cette expérience rare, vous l'avez dit, un voyage pour suivre les traces d'un fils disparu, c'est compliqué. Vous l'avez dit, c'est Philippe Rebaud qui s'est dit, un voyage pour un voyage, pourquoi? Un pèlerinage intime, pourquoi? Pourquoi ne pas en faire un film? Et puis alors, on en fait un film, certes, mais qu'est-ce qu'on va voir dans le film? On va voir quoi penser, on va les voir échanger, on va les voir sur ces routes, puisque vous l'avez dit, de La Rochelle
à Istanbul,
oui. Hein, de l'Atlantique à la mer Noire, ça fait du chemin, hein, et ce chemin ils l'ont fait. Alors ils ont pas tout fait à vélo. À un moment, ils font du stop. Donc ils sont embarqués dans un minibus. À un moment ils prennent le car, donc leurs vélos sont dans le coffre du car. Voilà. Ce qu'ils voulaient, c'était faire le voyage. Après, c'est pas un voyage touristique. Il faut pas le prendre comme ça. Il faut pas s'attendre à voir des images extraordinaires des pays qu'ils vont traverser. D'ailleurs, à aucun moment il n'est fait référence au chemin qu'ils suivent. On voit un moment qu'ils sont en Autriche, un autre moment ils sont en Hongrie, mais c'est parce que on voit les panneaux et on se rend compte qu'ils sont là, mais ils disent pas là, tiens là on traverse.
Oui, il y a pas l'expression d'une carte, le trajet.
Exactement. Ça n'est pas là, ça le sujet du film, et le sujet c'est parler finalement, mais parler de quoi? Et voilà ce qu'en dit Philippe Rebaud et Mathias Lécuze après lui.
Dans la solitude de la route, tu penses à plein de trucs, tu veux dire à ton copain, et à un moment, ben, quand tu t'arrêtes, tu lui dis, mais tu penses à Enfin, à un moment, ça fait entonnoir, toute ta pensée se vient comme ça, et puis après, tu te dis, mais ça, ce que j'ai envie de lui dire, c'est que je ne sais pas si je suis un bon copain. Après 6 heures de vélo ou de tournage et de trucs, de bouffer, de boire, de trucs, ben ça vient comme ça, ouais.
Ouais, ça vient comme ça aussi au milieu d'une conversation.
Oui,
parce qu'il faut savoir que les prises duraient une heure et demie. Moi, je me suis retrouvé quand même avec beaucoup d'heures de rush en 50 heures. Et le film s'est créé plutôt au montage, où j'ai associé des mots, enfin, j'ai fait un gros boulot de découpage.
Oui, parce qu'on n'est pas pertinent tout le temps. Donc.
Voilà, c'est ça, on n'est pas pertinent tout le temps.
On n'est pas pertinent tout le temps, et en plus, ils sont humbles, tous les deux. On a envie d'être sur le vélo avec eux, on a envie de courir avec le chien, on a envie de pédaler, même si à certains moments, ils ne s'amusent pas vraiment. Hein. Ils peuvent, de temps en temps, il y a des frictions. Mais en tout cas, le film à bicyclette capte avec justesse cette aventure intime et cathartique, forcément. Et il touche par sa sincérité, sa tendresse. Et évidemment, c'est l'humour et le burlesque qui viennent alléger l'émotion, forcément. Et c'est ce qui emporte l'adhésion. C'est pas un récit de deuil, c'est une célébration de l'amour, de l'amitié et de la vie malgré la perte. Et de cette façon, tous les deux créent une proximité troublante entre eux et le spectateur qui va voir le film. Donc, c'est un témoignage essentiel qu'il faut foncer à aller voir.
Licatesse.
Voilà.
Je l'ai vu.
C'est magnifique.
Une petite revue de presse sur ce film, aussi désopilant que chavirant. Ce journal de deuil, Rod et Boudy Mevy, ne ferait-il pas bouger les lignes du temps, selon Bande à part. La Croix bien aimée aussi, un film mélancolique, avec beaucoup de tendresse et d'humour. J'ai pas beaucoup trouvé de critiques négatives, peut-être Télérama, un petit bémol. Au fil des rencontres un peu trop arrangées et des discussions improvisées et alcoolisées sur l'amitié et la paternité, un drôle de film prend vie entre émotions et roublardise. On pose le vélo et on va à l'asile avec Bonjour l'asile, le nouveau film de Judith Davis avec Claire Dumas, Max Astual et Simon Bacouche. Alors, c'est l'histoire de Jeanne qui quitte le stress de la vie urbaine pour rejoindre sa fille Elisa, récemment installée à la campagne. Et au cœur des bois voisins, il y a un château abandonné qui est devenu une espèce de tiers-lieu qui foisonne d'initiatives collectives. Elisa aimerait s'y investir, mais entre les biberons et les couches, elle n'a pas trop le temps. Et Jeanne, elle est plutôt en militante des villes, n'y voit aucun intérêt. Quant à Amaury, lui, c'est un producteur en hôtellerie de luxe qui aimerait bien acheter le château pour en faire un hôtel. Alors, tout trois vont converger comme ça, malgré eux, vers ce lieu d'entraide et de subversion. Mais combien de temps cet asile d'aujourd'hui pourra-t-il résister à ce monde de fous ? Alors, dès sa première réalisation, c'était Tout ce qu'il me reste de la Révolution, hein, déjà en 2019, Judith Davis a su imposer un style assez personnel, proposer du cinéma de troupe, engager une continuation directe de ce qu'elle développe, d'ailleurs sur la scène avec son collectif, qui s'appelle L'Avantage du Doute. Et Bonjour l'Asile poursuit cette démarche, offrant des rôles sur mesure à ses comédiens fidèles, je l'ai dit, Claire Dumas, Maxence Tual, Simon Bacouche, qui sont tous bons, hein, bien sûr, dans leurs registres respectifs. Et elle brasse de multiples thématique de la vie quotidienne, puis détourne parfois les clichés pour montrer qu'au fond tout est lié, l'impossibilité de réaliser des travaux l'impossibilité de réaliser des idéaux féministes ou ses ambitions de carrière, hein, sans les lier à l'écologie ou à la vie de couple. Le film est parfois un peu bancal à force de vouloir trop en dire, mais c'est un film plein d'une colère saine, hein, qui parvient à rire des travers de notre société moderne, tout en les dénonçant avec force. Et Louis-Marie, vous avez rencontré la réalisatrice Judith Davis.
Oui, qui est venue donc parler de ce film si particulier qui est Bonjour l'asile. Elle l'a présenté, bien sûr, avec passion, évidemment. Et elle nous a expliqué notamment comment arriver à regarder une utopie pour finalement créer un asile. Cet asile-là, qui est ce château, qui est ce tiers-lieu qui accueille tout le monde, à condition de participer à la vie commune. Judith Davis.
J'ai essayé d'avoir c'est un peu fou, hein, mais c'est peut-être pour ça que ça s'appelle Bonjour l'asile, d'incarner une utopie, enfin, de me poser à moi la question, mais de quoi on peut encore rêver ? Comment notre imaginaire peut encore être une source d'invention, une source de renouvellement, de rêves de société, pour soi, pour le groupe? Donc ça, c'est vraiment à partir de cette question-là que j'ai commencé à réfléchir à cette hospitalité permanente qui serait ce foyer, cette association, ce tiers-lieu, cet ailleurs, quels que soient les noms qu'on lui donne, cet asile au sens du refuge et du répit dont on a tous et toutes besoin, je pense. C'est comme ça que cet asile-là est né.
Alors le film est porté par une mise en scène naturaliste, une énergie collective, évidemment. Le spectateur va découvrir une galerie de personnages en crise. Vous en avez parlé, ces personnages, Laurent, des personnages tiraillés entre leurs idéaux et la réalité et qui évoluent dans ce tiers-lieu installé dans un château. Alors, finalement, on est entre le conte et la ZAD, la zone à défendre.
Oui, c'est un peu ça. Ouais. Vous pouvez même parler à un arbre. Si
oui, on peut parler.
Il ne répondra pas comme le chien, mais vous pouvez lui parler.
Oui, et le prendre à témoin, en espérant qu'il trouve une solution au problème qu'on lui révèle. Alors, ce lieu devient aussi le centre du conflit entre ceux qui rêvent d'un vivre ensemble, bien sûr, harmonieux, et des acheteurs avides de profit. Parce que, vous l'avez dit, il y en a un qui veut acheter ce château pour en faire un hôtel de luxe. Alors, le film est sincère, et il pose des questions pertinentes, et puis en fait c'est un beau rappel sur l'utopie, à savoir que l'utopie, elle est peut-être bien semée d'embûches, mais elle demeure essentielle. Après tout, si c'est le message du film, autant aller le voir pour ça.
Les utopies ne finissent pas toujours bien.
Non.
Pas plus.
Bonjour l'asile.
Petite revue de presse sur ce film. Judith Davis examine et déconstruit divers systèmes de domination auxquels elle oppose la force du collectif, sans angélisme, avec une bonne dose d'humour. Selon Bande à part, La Croix bien-aimée, une comédie foutraque mais très réjouissante sur nos névroses contemporaines, c'est vrai. Petit bémol pour les fiches du cinéma. Bonjour l'asile aurait pu être une exploration des contradictions de notre époque, mais se complaît dans un discours artificiel plus fatigant qu'éclairant. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir La vie devant moi de Nils Tavernier, l'histoire de son 1942, et Toba, une adolescente pleine d'énergie, échappe de justesse avec ses parents à la rafle du Veldiv, et un couple leur propose de les cacher provisoirement dans un minuscule débarras de leur immeuble. On peut voir aussi Yokai, le monde des esprits d'Eric Coe à l'American Cosmographe, Real Pain de Jess Eisenberg au CGR Le Paris, Montauban ou la BC Toulouse. Là, c'est l'odyssée de deux cousins en Pologne. On peut voir Queer de Luca Guadagnino avec l'ex James Bond Daniel Craig, hein, tiré d'un roman de William Burroughs. On peut voir aussi Creation of God 2, Démon Force de Wershan. Un film pour vous, Louis-Marie, et peut-être pour vous aussi, Samir. Becoming Led Zeppelin, le fameux groupe de rock des années 70, Bernard, un documentaire de Bernard McMahon qui nous raconte vraiment les débuts du groupe Led Zeppelin, puisque le documentaire s'arrête pile aux années 70. Un documentaire qu'on peut voir à l'Utopia Tournefeuille, jeudi 27 février à 20h45, ou sinon au Pâté de la Beige ou au Wilson, vendredi 28 février à 19h30, et puis le son nickel, puisque c'est soit de l'IMAX, soit du Dolby. Et puis pour finir, un petit documentaire pictural sur l'énigme Velázquez de Stéphane Sorlat, un film qu'on peut voir au Grand Palais à Cahors ou à l'American Cosmographe.
Ramble On de Led Zeppelin et la voix inimitable de Robert Plant, et ne parlons pas de la guitare de Page, exceptionnelle. Dire que John Paul Jones à la basse ou au clavier et John Bonham à la batterie ne sont que de simples partenaires, c'est faux. Tous les deux avaient une place primordiale dans ce groupe énorme qui créa en son temps, il faut bien l'avouer, le hard rock. The time has come to be gone. And though I helplessly drank a thousand times. Et si nous retrouvions notre homme de loi des séries qui va nous parler de Bref 2 et nous expliquer pourquoi il n'a pas du tout aimé cette deuxième saison.
Je déclare l'audience ouverte.
Bref, ça y est, j'ai 40 ans.
Bon, il faut surveiller l'hypertension et le diabète, hein.
Pourquoi j'ai quoi ?
40 ans.
Petite merde.
Quoi ? Avec ma meuf, tout va pas se passer comme prévu. Avec mes potes, tout va pas se passer comme prévu.
Je vais faire quoi ?
Putain, mais lâche-moi !
Et avec ma famille, tout va pas se passer comme prévu.
On va se battre !
J'ai une nouvelle coloc que j'ai du mal à cerner.
Il est à toi, le fromage dans le frigo ?
Ouais, c'est un fromage
de chèvre. T'as eu de la merde, ton fromage de merde !
Autour de moi, tout le monde a évolué. Enfin, presque tout le monde. Les autres, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, ils ont fait des vrais choix, et ont changé de vie. Moi, je fais les mêmes erreurs en boucle.
Ce soir, je vais vous parler de Bref, saison 2. Alors, j'ai vraiment des problèmes à vous en parler parce que tout le monde adore, c'est formidable, ça a changé ma vie, c'est la série la plus regardée sur Disney+. Bon, vous me direz, sur Disney+, il n'y a rien de regardable. Donc, les gens qui payent l'abonnement et qui ont de l'argent à jeter par la fenêtre, faut bien qu'ils fassent quelque chose. C'est vraiment une révolution, cette série. Eh bien, cher Louis-Marie, j'ai détesté et j'avais envie de vous dire, c'est moi, mon ressenti. Non, c'est de la merde et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en fait... Bref, pour moi, c'était une série culte. C'était un format court, fait par Kian Kojandi et Navo, qui passait sur Canal+. Et en bref, c'est justement l'intitulé, c'était des tranches de vie d'un gentil loser. Et ces tranches de vie d'un gentil loser, on pouvait s'identifier parce que c'était le trentenaire qui se posait beaucoup de questions. Et il avait eu l'intelligence, Kian Kojandi, d'arrêter au bon moment. Il avait eu l'intelligence de se dire, là, les séries qui font la saison trop, on en garde un mauvais souvenir, donc je m'arrête à mon prime. Il avait ensuite créé Bloqué et Serge Le Mito qui se complétaient, et ce qui avait été mais une maestria incroyable, c'est que à la fin de Bref, on n'avait pas de réponse sur que devenait le personnage. Et par le biais d'une de ses autres séries, il donnait une fin digne de ce ton à sa série Bref. Il aurait dû en rester là. Mais évidemment, alors il va dire l'appel artistique, moi j'ai envie de dire les millions de Disney+, ont fait que il a fait une saison 2. Donc c'est sur Disney+, c'est 6 épisodes, et ce sont maintenant des formats longs. Alors je vais être très honnête avec vous, Louis-Marie, j'ai décroché à l'épisode 2. Alors qu'il faut savoir que pour moi, Bref était vraiment culte. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. En premier, c'est un soft reboot. C'est quoi les soft reboots ? On vous dit pas qu'on repart à zéro, mais en fait on prend le personnage, des événements arrivent et il revient au niveau où il était au début de la saga. C'est ce qui se passe au début de Bref 2. C'est-à-dire que on a quitté un loser complètement perdu qui avait affronté ses démons intérieurs et qui avait grandi. Au début de Bref 2, il lui arrive un événement qui fait qu'il revient exactement au même niveau que Bref 1. Donc en fait, c'est une redite de ce qu'on a déjà vu. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les gens qui disent « c'est formidable, ça me parle énormément », ne sont pas des quarantenaires. Ce sont plutôt des gens qui ont la vingtaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi je suis quarantenaire. Et justement, j'ai pris ces 10 ans dans la gueule entre Bref 1 et Bref 2. Et ça aurait dû me parler. Mais en fait, ce qu'ils nous délivrent, c'est un message plutôt pour les jeunes. Alors évidemment, il y a une galerie de personnages et on va pouvoir s'identifier à certains. Mais en vrai... C'est juste, il faut trouver sa voix. Merci, mais on l'a vu 150 fois. Parce que déjà, moi, ce qui m'a choqué dans Bref 2, c'est qu'il y a du plagiat. Premier épisode, on a une des ex du personnage principal qu'il a jeté comme une malpropre, qui devient actrice. Alors, ça sort de nulle part. Hein. C'était pas du tout teasé dans Bref 1. C'est encore une fois un personnage qu'on replace autre part, mais sans justification. Donc, elle devient actrice et aussi scénariste. Et elle fait un film extraordinaire où, en fait, elle raconte le couple toxique qu'elle avait avec le personnage de Bref. Là, en fait, c'est un scénario d'une des saisons de How I Met Your Mother. Purement et simplement. C'est du plagiat. C'est pas de l'hommage, c'est du plagiat. C'est aussi une façon de déconstruire le personnage pour me dire que le personnage qu'on avait aimé dans Bref 1, c'est un mec toxique, c'est pas bien. Enfin, on est assez intelligent pour se rendre compte que ce mec-là, dans ses rapports avec les femmes, il était pas du tout à suivre. Au contraire, c'est justement ce qui est arrivé. Tout s'effondre pour lui. Deuxième épisode, là, on a le personnage de Bref qui avait des petits tocs, mais comme on a tous, qui devient vraiment maniaque et qui a des tocs énormes, hein, qui mériteraient une prise en charge. Ben en fait, c'est les mêmes tocs que Sheldon dans Big Bang Theory. Donc, encore une fois, on est sur du plagiat. En fait, moi, j'ai pas envie de revoir un mix de toutes les séries que j'ai vues ces 10 dernières années. J'ai envie de voir quelque chose de nouveau. Et c'est là où Bref échoue. Bref, la première saison, elle a mené, justement, c'est elle qui faisait les tendances. On en discutait, c'est elle qui a influencé les choses. Bref 2 n'est qu'un résumé de tout ce qu'on a vu depuis 10 ans. Alors vous allez me dire, mais tout le monde adore, est-ce que c'est vous qui n'avez pas de goût? Non, c'est la plupart des gens qui n'ont pas de goût, je préfère vous le dire, Louis-Marie. Pas de goût parce qu'ils voient pas assez de choses. Si vous avez vu beaucoup de séries télé, si vous avez vu beaucoup de films et beaucoup de gens inspirants, eh bien en fait, Bref 2 et juste un résumé de tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, sans aucune innovation. Ça ne crée plus l'événement, ça le subit. Donc, oui, Bref 2 est mauvais, n'est pas bien joué, n'est pas innovant, singe son propre format, se contredit. Je pense que c'était une erreur de faire cette seconde saison, mais ça a marché, les gens l'ont regardé, ça a soi-disant changé leur vie. En fait, j'ai envie de dire, faites de l'humanitaire, faire autre chose, mais si c'est Bref 2 qui change votre vie, oui, il faut vraiment changer de vie, je vous le dis clairement. Donc, clairement, il fallait pas faire de saison 2. Ils vont sûrement faire une saison 3 pour l'appât du gain. C'est dommage. Encore une série qui aura fait la saison de trop. Je vous remercie.
Vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. Passez votre chemin et rendre votre abonnement à Disney+, puisque visiblement, il n'y a pas grand-chose à voir sur cette plateforme. Pardon. Titre de ce morceau s'intitule « It's a Life » et signé Burkhard Dalwitz. Mais « It's a Life », est-ce que c'est vraiment la vie? La vie, en tout cas, celle que pense vivre Truman Burbank. Hein, parce qu'en fait, sa vie, en fait, c'est un spectacle, c'est une série télé. Une série télé que tout le monde suit. Il est le seul à ne pas savoir qu'il vit à un endroit qui a été fabriqué de toutes pièces.
The Truman Show de Peter Weir.
Eh oui, et logique que le film soit dans la galaxie Hitchcock, puisque ouais, c'est l'exact inverse de Fenêtre sur cour. Dans Fenêtre sur cour, un photographe observe tous tout ses voisins. Ouais. Là, c'est l'inverse.
C'est tout le monde qui regarde ce jeune homme.
Ce jeune homme, remarquablement interprété par Jim Carrey. C'est un film extraordinaire. Donc, courez le voir à la Cinémathèque. Mais en fait, la Cinémathèque, en ce moment, elle se trouve au cinéma Pathé Wilson et ce sera demain à 19h30 que vous pourrez voir The Truman Show. Comme vous pourrez voir au cinéma Pathé Labège La La Land si vous avez envie de danser.
Si vous aimez les comédies musicales. Oui.
Celle-ci est particulièrement réussie et commence par un plan séquence de 10 minutes de toute beauté. Emma Stone et Ryan Gosling sont proprement extraordinaire au Pathé Labège, donc dans sa version originale, c'est pour lundi 3 mars à 21h. Et puis, la séance ciné-hit, c'est pour jeudi 27 février à 19h30. C'est à la fois au Pathé à Labège et à celui de Wilson. Le film, c'est Jack Reacher, pour voir bien Tom Cruise autrement qu'en Ethan. Le personnage de Mission Impossible, là, c'est un ancien militaire qui fait le flic. En fait, il peut rentrer un peu partout, il enquête. Et là, surtout quand il y a un ancien militaire accusé d'avoir tuer 5 personnes. Bon, c'est bien compliqué tout ça. Donc, Jack Reacher, dans sa version originale, aux deux pâtés à La Belge et Wilson à Toulouse, jeudi 27 février, et puis un chef-d'œuvre. Mais oui, ne mâchons pas nos mots, un film de 1962, L'homme qui tua Liberty Valance, avec John Wayne, James Stewart et Lee Marvin. Ça, c'est du lourd. Mais il faudra aller jusqu'à Rodez pour le voir. Et nos amis ruiténois pourront le découvrir mardi prochain, mardi 4 mars à 20h, qui finit sur cette fameuse phrase qui reste sur toutes les lèvres.
Oui.
Quand la légende est plus belle que la réalité, on publie la légende. Voilà pour le cinéma sur le grand écran, les reprises en tout cas, sur le petit, c'est avec vous Laurent.
Le cinéma, la télévision, ça commence dès ce soir sur Sister. Alors, Sister, c'est la chaîne 22. Alors, bientôt, toutes les chaînes vont être bouleversées, donc ça va être chaud ça aussi. Alors, on peut voir Les Indestructibles 2 de Brad Bird, la famille Parr, plus connue comme Les Indestructibles, intervient en ville menacée par les exactions du démolisseur. Mais leur action occasionne de nombreux dégâts qui leur sont reprochés par l'administration. Voilà une belle suite hein, au scénario très riche. Animation remarquable, débordant d'humour et d'inventivité. Voilà, pour les petits et les grands, passez une bonne soirée. Le vendredi 21h sur France 5, ce sera Les Évadés de Franck Darabont, un film de 94, un film que vous aimez beaucoup, Louis-Marie, je le sais, avec Tim Robbins et Morgan Freeman. En 1947, Andy Dufresne, un jeune banquier, est condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme. Il est emprisonné dans un pénitencier le plus sévère de l'état du Maine. Il fait la rencontre de Red. Commence alors une grande histoire d'amitié entre les deux hommes. Un magnifique film sur l'enfer des prisons, même s'il est un peu long, 2h20. Samedi, sur France 4, ce sera une belle soirée de cinéma féminin qui débute à 21h avec Caramel de Nadine Labaki. En 2006, 5 femmes discutent dans un institut de beauté à Beyrouth, servi par une photographie soignée, un premier long métrage drôle, attachant et plein d'espoir, vraiment un petit régal. Et puis le film sera suivi à 22h30 d'Augustine, qu'on pourra revoir, il est passé il y a quelques semaines déjà, d'Alice Vinocourt avec l'incroyable Vincent Lindon. Nous sommes à Paris en 1885 et Augustine, 19 ans, est atteinte d'hystérie. Elle rencontre le professeur Charcot qui va la soigner. Une œuvre dense qui fait la part belle à ses comédiens. Et dimanche 21h, voilà un très bon film, si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille, c'est Cœur de tonnerre de Michael Apted, un film de 1992 avec Val Kilmer et Sam Shepard. À la fin des années 70, Ray, un jeune officier fédéral d'origine indienne, est chargé d'une mission délicate, élucider un crime commis à Bear Creek, qui est une grande réserve Sioux, située dans le Dakota du Sud, servi par de bons acteurs. Voilà un thriller engagé et prenant, doublé d'un vibrant plaidoyer en faveur des Indiens. Le conseil Blu-ray DVD, je vais emprunter un peu les plates-bandes de Grégory, puisqu'il s'agit d'une série que vous connaissez tous. C'est La Quatrième Dimension, The Twilight Zone, en version originale. Je vous recommande de commencer par la saison 1 déjà. Une fameuse série des années 50, créée par Rod Serling, une série culte et avant-gardiste que chaque amateur de science-fiction doit absolument posséder. Vous pouvez la retrouver facilement pour une vingtaine d'euros en DVD, par exemple, chez The Corporation, une maison d'édition. Voilà pour le cinéma à la télévision cette semaine. Nothing's too good for the man who shot Liberty Valance.
Alors c'est vous qui vous êtes débarrassé de Liberty Valance?
Ah oui, peut-être oui. Je ne me souviens pas.
En tout cas,
j'étais pas né.
Nothing too good. Woman shot Liberty Valance. On parlait de cette belle musique tout à l'heure, Samir Arabi. La voilà, celle de 200 mètres. Farai Suleiman a signé la partition de ce film d'Amin Nefe, 200 mètres. Mais vous avez parlé d'un autre film et de son réalisateur, Piero Usberti. Ce film, c'est Voyage à Gaza. Et voilà ce qu'il a dit, puisqu'il avait tourné ce film avant les événements du 7 octobre et ce qu'il en est découlé, et voilà ce qu'il en dit et pourquoi il a tenu à ce que ça reste voyage à Gaza.
Pour moi, ça a été un voyage merveilleux. Et du coup, cette invitation qui, avant le 7 octobre, était encore une invitation possible, parce que c'était compliqué, mais c'était possible. Enfin, moi, j'ai rencontré quand même beaucoup de gens qui, pendant mes 3 mois, qui étaient là, soit pour faire un film, soit pour participer à une chose. Enfin, il y avait des gens qui le faisaient, donc c'était possible. Et maintenant, c'est devenu un rêve impossible. Mais j'ai voulu garder cette invitation. Voilà, je voulais pas que ce qui s'est passé ensuite efface et balaye tout ce que le film avait voulu être.
Ce que le film avait voulu être, Voyage à Gaza, donc, que vous proposez, d'une part, à Toulouse, ce sera du côté de l'ENSAV, et puis sinon, le film tourne un peu en région.
Du côté de Cratère.
Ah, c'est...
On a pensé le proposer aux élèves de l'ENSAV, mais ça pas, on a, il n'est pas disponible.
Ousberti, donc il n'a pas pu venir.
Malheureusement, on était obligé d'annuler. Donc il sera avec nous pour le Cratère dimanche soir.
Sinon, il est proposé aussi dans une salle en région. Enfin, en région, on ne va pas très loin, c'est à Aucamville. Hein. Mmh. À la salle Jean Marais, ce sera pour jeudi 6 mars à 18h30. Vous aussi, finalement, c'est une invitation au voyage à laquelle vous nous conviez en allant nous proposer ces films à Ciné-Palestine, même s'ils sont lourds, de temps en temps, lourds de sens.
Parfois, ils sont lourds, mais pas toujours.
Pas toujours, non, heureusement.
Et pas toujours, et par exemple, si vous aimez le chant, je vous invite à aller voir Le Chanteur du Gaza, de Hani Abou Assad, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui a envie de devenir chanteur, qui veut participer à un concours.
Il veut participer à quelque chose qui est équivalent de ce qu'on connaît chez nous, non hein,
c'est, oui, tout à fait, oui.
C'est
un rap idol,
ouais.
Une espèce de The Voice ou
oui, c'est
concours
ça.
De chant.
Ouais, musique, c'est ouais. Ça, c'est l'adaptation d'un jeu qu'on a fait en France et qui est originaire des États-Unis. Et pour y arriver, il est prêt à tout parce qu'il n'a pas les papiers pour passer la frontière. Hein.
Déjà, il n'a pas l'électricité pour répéter.
Oui, en plus.
Un groupe électrogène. Oui. Lorsqu'il arrive à avoir un groupe électrogène.
Oui, c'est compliqué parce qu'il va falloir qu'il chante. Oui. Le Chanteur de Gaza, il est assez formidable, ce film. C'est assez extraordinaire.
On a souhaité le programmer parce qu'il y a Gaza qui vit sa tragédie, qui est triste, mais il y a Gaza, dans un contexte apaisé, qui aime aussi faire la fête, aime chanter, aime danser, etc. C'était important pour nous d'avoir un voyage complet vers Gaza, qui part de Voyage à Gaza, qui raconte aussi la situation actuelle, et qui raconte aussi ce désir de vouloir vivre, tout simplement.
Et qui porte tous ces Palestiniens, tous les gens qu'on peut voir dans la plupart de vos films.
Tout à fait.
Ce que vous nous proposez. Vous proposez également des rencontres et des expositions. Quelles sont les expositions et une exposition que vous proposez ?
Alors, on est extrêmement bouleversé par la situation des journalistes en Palestine. C'est pour cela qu'on propose donc à l'ENSAV une exposition intitulée « Les journalistes pris pour cible ». On a voulu combiner ça avec un côté cinématographique. Donc, on propose le samedi 8 mars 2 courts-métrages. Le premier s'appelle « Shattered Memory ». C'est l'histoire d'un journaliste palestinien qui se déplaçait partout, qui photographiait, etc. Donc c'est un documentaire et un court qui s'appelle « Out of Combat ». C'est une petite fiction sur les journalistes au sud du Liban. Et les deux films ainsi que l'expo, ça va être accompagné par une journaliste palestinienne qui va nous raconter un petit peu la situation, comment un journaliste arrive à fonctionner, comment il arrive à se déplacer, comment il arrive à photographier,
à faire son travail.
Et il y a aussi, il faut le noter, des photolithographies de Tristan Rat, c'est ça. Et ces photolithographies vont être en vente au cours de cette 11e édition de Ciné-Palestine, des photolithographies rares, puisqu'elles sont limitées, elles sont éditées en nombre limité.
Tout à fait.
C'est assez extraordinaire. Il y en a une petite photo qui donne une petite idée dans le programme remarquable que vous proposez de tous les films et toutes les rencontres qu'on peut faire grâce à Ciné Palestine. Sinon, bien évidemment, il y a le site internet.
Bien sûr. Alors, vous pouvez consulter notre site. C'est ciné-palestine-toulouse.fr. Vous aurez le programme. Vous aurez aussi des résumés sur les films et vous aurez les biographies de nos amis cinéastes invités.
Tout est dit, ou presque, avant de se séparer, de nous séparer. Je vous fais écouter quelque chose qui n'a pas à voir avec la Palestine, mais qui a à voir avec une femme qui, enfin, est reconnue au niveau national et qui mériterait peut-être d'être au Panthéon. En tout cas, un film lui est consacré et qui va être proposé sur France 2, Olympe, Olympe de Gouges, une femme dans la Révolution. Mathieu Busson et Julie Gayet ont réalisé tous les deux ensemble le film. Julie Gayet interprète le personnage de Olympe de Gouges, cette femme rare. Et le film raconte l'histoire de cette femme. On est en 1795, alors 93, pardon. C'est les derniers mois. Sont les derniers mois de la vie d'Olympe de Gouges, et juste après, enfin 4 ans après la prise de la Bastille, donc c'est pour situer, et la situation est plutôt explosive, et c'est la terreur qui règne. Oui, Robespierre est là, oui. Et il y en a beaucoup qui sont passés à la guillotine. Elle en fera partie parce que c'est une femme et qu'elle a tort de dire que ce qu'ils font, c'est pas bien. Elle le clame et elle était députée, donc elle le disait à l'Assemblée. C'est compliqué pour elle. En tout cas, voilà ce qui a motivé et la démarche qu'ont suivi Mathieu Busson et Julie Gayet.
Il y a la productrice Christy Molia qui a lancé le projet. Il y a des scénaristes qui ont écrit le projet, qui ont
pitché.
Ça n'a pas été simple. Ils ont fait plusieurs versions. Ils ont tenté de raconter toute sa vie et puis finalement pas. C'est des choix, quoi. C'est... Et après la prison, c'est plus facile de le dire après coup, mais c'est quelque chose qu'on a voulu. Ça fait sens parce que c'est le. Malheureusement et paradoxalement, c'est la chose la plus moderne aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une chose qui fait écho à toutes les prisons des femmes, à toutes les époques et encore aujourd'hui partout dans le monde. Donc en fait, de raconter ces derniers jours, façon les derniers jours d'un condamné de Hugo, c'était. Ça permettait de montrer la condition des femmes. En Iran, en Afghanistan, ça permettait une grande modernité de ramasser l'histoire et effectivement de choisir quel flashback on allait faire.
Puis, de toute façon, elle a une histoire tellement riche que c'était compliqué de la raconter dans son entièreté. Donc forcément, un film, c'est faire des choix. C'est,
ouais, c'est des regrets, des concessions, des...
Oui, des ellipses aussi, c'est ce qu'on montre et qu'on ne montre pas. C'est l'ellipse aussi, raconter une histoire. On ne peut pas tout raconter. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Flammarion va publier notre scénario avec des historiennes qui ajouteront les commentaires sur ce qu'on n'a pas pu mettre, parce qu'on ne peut pas tout mettre en une heure et demie, malheureusement.
Malheureusement. Donc, c'est ramené à une durée tout à fait convenable pour un film, un téléfilm d'une rare qualité, 90 minutes, une heure et demie pour parler des trois derniers mois de la vie d'Olympe de Gouges. Vous l'avez compris, au moment où elle a été emprisonnée, après prises de position contre Robespierre qui l'ont amenée en prison. Donc, on la voit comment elle vit dans cette prison et, évidemment, vous l'avez compris, il y a des flashbacks qui montrent ce qu'elle a fait, ce qu'elle a été avant. C'est remarquablement fait et remarquablement interprété. Parmi les acteurs de ce film, je voulais simplement parler de Manon Haribaud, la toute jeune actrice qui a une petite quinzaine d'années, un peu plus, allez, je la rajeunis peut-être un peu trop. Ça ne plaît pas trop d'être trop rajeunie à cet âge-là, mais Manon Haribaud joue le rôle d'Olympe de Gouges jeune. Et elle est remarquable. Un tout petit rôle, mais on la voit sur la route entre Montauban et oui. Paris.
C'est ce que j'allais rajouter, Olympe de Gouges, je ne sais pas si on l'a dit, était natif de Montauban.
Voilà. Et donc, c'est elle qu'on voit partir de Montauban pour aller à Paris, alors que son mari, son monte premier mari, monte à la capitale avec son fils dans les bras. Eh bien, c'est cette toute jeune comédienne. C'est une amie, c'est normal qu'on en parle. Découvrez le film donc lundi prochain, 3 mars à 21h10 sur France 2. Et sinon, le film après sera sur la plateforme France Télévisions. Samir Arabi, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Et on aime parler de Ciné-Palestine avec vous.
Merci.
Et restez fidèles à Ciné-Palestine en participant au festival, en allant voir tous les films dont Samir Arabi vous a parlé, du lundi 3 mars au mardi 11 mars. Laurent, quels sont vos coups de cœur ?
Les coups de cœur, ce sera pour A Bicyclette, Bonjour l'Asile, Becoming Led Zeppelin pour avoir un peu de musique dans les oreilles, et bien sûr Ciné-Palestine du 3 au 11 mars, le programme ciné-palestine- Toulouse.fr.
À bicyclette, Bonjour l'asile, le film Olympe, qui m'a vraiment fichu une grande claque, très réussi, ne le manquez pas quand lundi, ou bien au moment où vous voudrez, puisqu'il sera visible grâce à la plateforme France Télévisions. Et puis, Ciné-Palestine, on ne saurait trop vous conseiller de foncer dans une des salles pour aller voir les films qui vous sont proposés, à commencer par ceux qu'on a mis un peu en lumière, Voyage à Gaza ou 200 mètres, mais il y en a plein d'autres. From Ground Zero, notamment l'ensemble des courts-métrages. Merci encore Samir Arabi, merci Laurent.
Bonne soirée, à mercredi prochain.
On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de N'oubliez pas l'ouvreuse. Vous savez que vous pouvez nous retrouver en podcast sur radioprésence.com. Allez au cinéma et restez fidèles à Présence. Salut.
La prochaine fois, on ira au cinéma.
Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence, qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres.